Donc, on passe tout de suite au dossier de cette émission, dossier consacré à la mémoire de la guerre d'Espagne. Donc, on va entendre plusieurs sons, plusieurs interventions autour de cette question. On n'en fera évidemment pas le tour. Voilà. Et déjà, pour mémoire, on est aujourd'hui en 2009. Ça fait donc 70 ans que les Républicains ont perdu et que beaucoup d'entre eux donc, sont partis en exil, et notamment en France. Voilà. Et donc, on va entendre, surtout dans la deuxième partie du dossier, qu'il reste encore beaucoup à faire en Espagne pour réhabiliter cette mémoire, que ça ne passe toujours pas, parce que quand on ne glorifie pas les bourreaux, en fait, on renvoie dos à dos les fascistes et les républicains. Voilà, on dit que c'était une guerre civile, il y a eu des morts des deux côtés, tout le monde a commis des atrocités, etc. Mais ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que déjà, il y avait un gouvernement, une république, qui a été. Qui a été menacée par le coup d'État de Franco et que s'en est suivie donc cette guerre qui vous l'entendrez que certains récusent comme guerre civile qui est un terme qui peut masquer en fait les enjeux parce que ça a été aussi une véritable révolution sociale et certains préfèrent parler de guerre de classe. Enfin bref, on a beaucoup de choses sont encore latentes et beaucoup de choses sont encore à découvrir et à accepter, notamment dans la société espagnole. Et puis, pour ce qui nous concerne en France, étant donné que la plupart des exilés républicains sont installés en France et d'ailleurs sont passés. Notre histoire est complètement liée, puisque en arrivant en France, beaucoup ont été parqués dans des camps, voire à ciel ouvert, carrément sur la plage pendant plusieurs mois, dans des conditions de vie, de détention absolument horribles. Ensuite, beaucoup se sont engagés dans la résistance, et aujourd'hui on le sait, mais bon, ça a été longtemps complètement occulté. Les premiers à entrer dans Paris et à libérer Paris, c'était donc une division d'Espagnols, de républicains espagnols, emmenés par Leclerc, certes, mais quand même, tous les combattants étaient des Espagnols. Voilà, alors on va commencer par une interview de Thomas Jiménez qui a été réalisée à Toulouse en mai 2008. C'était, je précise, place du Capitole, c'est pour ça qu'on a un certain bruit de fond, mais bon, ça fait partie du jeu, qui lui va nous parler du disque et du groupe El Comunero. El Comunero, c'est en fait un disque donc, qui reprend des chansons de la guerre d'Espagne, en les réactualisant bien sûr, au niveau musical notamment, en hommage en fait à son grand-père qui était communiste et républicain andalou, qui a donc participé à cette guerre. Et donc on va entendre Thomas qui nous explique un peu comment est né ce projet.
Ce projet, il me turlupine depuis un bon moment, depuis que je suis adolescent, puisque j'avais un grand-père républicain espagnol qui était andalou, communiste, et qui était un patriarche, quoi, de très important dans la famille, hein, qui a bercé mon enfance avec des histoires, des chansons, etc., autour de la guerre d'Espagne et de ce qu'il avait vécu. Puis au moment de son décès en 2002, j'ai eu envie de retravailler sur des enregistrements que j'avais fait de lui, donc avant sa mort, et des chansons qu'il m'avait apprises, hein, pour lui rendre hommage et puis aussi rendre hommage à tous les gens qui ont mené ce combat-là, cette lutte-là, quoi. Donc voilà, le projet part de là. Donc c'est un projet que j'essaie de mener à bien depuis son décès, depuis 6 ans maintenant, puisqu'il est décédé en 2002, et qui se concrétise là depuis quelques mois. Ouais.
Grâce à quoi il se concrétise en fait?
Alors grâce à quoi? Grâce à l'appui du Tacti Collectif, qui est un organisme qu'on ne présente plus, quoi, sur la région toulousaine, hein, qui est la même famille que les Motivés, que Zebda, etc., qui organise événements culturels et militants sur Toulouse depuis très longtemps, et qui m'a un peu poussé dans ce projet-là à en faire un disque, un album abouti, puis aussi grâce à Mosaïque, quoi, un label toulousain qui distribue pas mal de petites productions alternatives, hein, et qui m'a aussi poussé dans ce projet-là et m'a décidé à en faire un album. Puis au-delà de ça, tous les musiciens qui ont participé à l'expérience et sur l'album et sur scène, hein, et qui m'accompagnent, quoi. Donc on va les citer, il y a d'une part sur l'album et d'autre part sur scène, quoi, parce qu'il y a donc deux formules différentes puisque l'album est venu avant le groupe, hein. Donc sur l'album, le projet, donc c'est moi et Kif, donc Franck Marty, qui est polyinstrumentiste, Jean-Paul Roy à la basse, Pascal Rolando, batterie percussion. Il y a aussi les cuivres de l'air de rien, donc Pierre Alberto du Chazot, François Biderman et Rémi Lapeyre. Et puis sur scène, El Comunero, c'est 6 musiciens. Donc c'est toujours le même camarade, Franck Marty, moi-même, Clebouze, d'ailleurs, le man Léo, qui fait guitare chant, Pierre Berthaud du Chazot, clarinette, Stéphane Blanc, contrebasse, et Pascal Rolando, qui est aussi sur l'album, à la batterie ou percussion. Et donc, après, juste un petit détail, sur scène, donc au-delà des enregistrements de mon grand-père qu'on a pu réaliser, il y a des projections de photos, de documents que j'ai pu récupérer de l'époque, quoi. Même s'il y en a qui ont disparu, et c'est fort dommage.
Donc il y a quand même sur scène, vous avez ce travail de pédagogie, je dirais, entre vous.
Mais il y a même différents projets selon l'endroit où on joue et les possibilités de l'organisateur. Il y a aussi la possibilité de faire comme on a fait à Tarbes dernièrement, de faire deux journées avec exposition, intervention d'historiens, d'auteurs, des débats, de la poésie. Puis on est accompagné et sur l'album et par rapport au projet et par rapport aux interventions qu'on peut faire sur scène et tout, par l'auteur Progresso Marine, par l'historien Jean Ortiz, qui permettent justement d'apporter un peu plus de fond pédagogique, quoi, pour le coup, quand on propose un concert aussi. Ouais.
Qu'est-ce qui fait que c'est un projet qui vous a tous rassemblés ?
Ben, je pense que les valeurs, encore une fois, quoi, les valeurs politiques que porte ce projet, ça, c'est ce qui a fait que tout le monde avait envie de se rassembler autour de ce projet-là. Et je pense que justement, il y a plein d'expérimentation, d'utopie, quoi, qui ont été réalisées en Espagne à cette époque-là, qui ne sont pas connues du tout, quoi. Et qui, même sur des points de vue économiques, qui est le point de vue le plus important aujourd'hui, quoi, étaient des expériences vachement intéressantes. Des expériences autogestionnaires d'industrie, d'école, de l'agriculture et tout, c'est des trucs qui étaient plus que pertinents. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression, depuis la chute du communisme, qu'on n'a plus le choix, qu'on a fait le tour des idéaux et qu'après tout, eh ben, il ne nous reste plus que l'idéologie dominante. Je pense qu'il y a encore d'autres choses qu'on n'a pas encore creusées et qu'on aurait qui sont un peu tues même, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de soutien de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, au gouvernement républicain espagnol, c'est parce qu'ils ont peur de ça, de tout ce qui se passe en 1936, même avant, en Espagne, quoi, où il y a une vraie agitation, un truc nouveau, quoi, qui se crée, parce qu'il y a tous les mecs qui étaient aussi renvoyés de Russie, parce que trotskistes ou anards, ou qui s'étaient réfugiés en Espagne. Il y avait une vraie ébullition, des vraies tentatives, des vraies expériences, quoi, qui sont méconnues encore aujourd'hui, ouais, et qui étaient pour le coup des idéaux alternatifs encore valables aujourd'hui, je pense. Puis même en termes d'éducation, même en termes de... Enfin, à tous les niveaux, je pense que ce qui s'est passé entre 36 et 39 en Espagne, c'était, ouais, révolutionnaire, vraiment, quoi, vraiment.
Il y a Origine Contrôlée aussi, qui est sortie là, fin 2007. Je sais pas, il y a une période où c'est une coïncidence ou... Je sais pas, il y a...
C'est une coïncidence, oui, non. Moi, ça fait 6 ans que je démarche le Tacti Collectif par rapport à ce projet-là et pour qu'ils m'aident à le faire aboutir, quoi. Donc, dès le début, moi, ça fait vraiment très longtemps que je suis sur ce projet-là et je peux même le dire et l'assumer avant Origine Contrôlée. Après les motivés, ça c'est sûr, mais avant Origine Contrôlée. Et donc, disons que, ouais, effectivement, c'est marrant que deux groupes du Tacti Collectif soient sur à peu près la même démarche, c'est-à-dire en retour aux racines et tout. Mais en même temps, je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, quoi. On est dans des périodes très troubles où on ne sait plus où on en est, question idéale, question utopie. Et je pense que se repencher vers l'arrière, vers ce qu'ont fait nos pères et nos grands-pères, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Ouais. Que là où on en est aujourd'hui, même si ça nous paraît pas grand-chose, tous les acquis qu'on a aujourd'hui, c'est quand même des acquis de haute lutte, quoi, et des luttes qui durent depuis même plus de 60 ans, quoi, plus de 70 ans avant la guerre d'Espagne, et qu'il faut se replonger là-dedans pour arriver à se rappeler comment on a réussi à obtenir ces choses-là et encore une fois se remotiver et repartir au combat, quoi.
C'est des chansons qui t'ont été transmises par ton grand-père. Est-ce qu'il y a eu un choix ? Est-ce que t'as fait un choix parmi ces chansons ? Enfin, comment ça s'est passé, la sélection des chansons qu'il y a sur ce disque ?
Ouais, disons, en fait, pour rectifier un peu, il y a beaucoup de chansons qui m'ont été apprises par mon grand-père, la majorité, quoi. C'est-à-dire la plupart des chants qui sont vraiment des chants traditionnels de cette période-là ou d'avant la guerre civile. Mais il y a aussi des chants qui viennent de mon père. Par exemple, il y a quelques chansons de Paco Ibáñez qui sont forcément pas contemporaines avec la guerre d'Espagne, même si les textes le sont, les chansons ne le sont pas, et qui m'ont été plus apprises par mon père, transmises par mon père que par mon grand-père. Mais la plupart des chansons, en fait, ouais, il y a très peu de chansons que j'ai découvertes pour l'album, il y en a quasiment pas, en fait. Toutes ces chansons-là, elles m'ont toujours accompagné, je les ai toujours chantées depuis que je suis tout petit. Donc le choix, il s'est fait un peu naturellement. Il y en a plus qu'on a dû enlever, plus qu'en trouver d'autres, quoi.
El 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la metralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con Mister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlo, no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena la metralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la metralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el quinto, 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 con el quinto regimiento, madre, yo me voy al frente en la línea de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la metralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo.
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, les oreilles longues du front. Et là, on est en compagnie de Tomás Jiménez, donc autour du disque et du groupe El Comunero. Et donc Tomás nous parlait de comment il a monté ce projet et comment il a choisi les chansons, enfin comment... Quelles étaient les chansons qu'il a choisi de mettre sur le disque. On vient d'entendre donc un extrait de ce disque. C'était le El Quinto Regimiento, donc le cinquième régiment. C'est en fait le cinquième régiment, c'est le nom que le Parti communiste espagnol donna à son instrument de lutte donc destiné à combattre le fascisme. Voilà, et on repart donc tout de suite avec Tomás, qui continue à nous parler du contenu du disque, du choix des chansons. Voilà.
Du coup, t'as gardé quoi? Enfin, qu'est-ce que tu voulais
Parce que mon grand-père, de cette expérience-là, quand je vois, j'ai un autre groupe à côté, c'est le cas de tous les musiciens du groupe El Comunero. Moi, dans mon groupe de chansons, puisque c'est un groupe de chansons françaises qui s'appelle L'air de rien, c'est un groupe qui est, comme beaucoup de groupes à l'heure actuelle, quoi, qui questionne beaucoup sur la question du militantisme, de l'engagement, etc. Moi, quand je vois l'histoire de mon grand-père qui a 18 ans, a été prêt à s'engager jusqu'au bout, quoi, c'est-à-dire jusqu'à y risquer sa vie pour ses idéaux et pour des idéaux auxquels il croyait. Ça, voilà, je trouve que c'est peut-être la chose qui nous manque aujourd'hui. Tout le monde a des idées, tout le monde est capable de beaux discours, de beaux sentiments, mais quelque part qui s'engage, quoi. Donc c'est en même temps un hommage à ces gens qui ont fait cette histoire-là, mais aussi un appel aux gens d'aujourd'hui, un peu, quoi, oui, c'est vrai, à peut-être se bouger, quoi, se remuer.
Donc c'est les chansons les plus péchues, alors c'est ça, c'est quoi?
Pas forcément, en fait on a essayé de, comme il y a beaucoup de chansons, beaucoup de groupes qui ont déjà fait des reprises de chansons de cette période-là, on a essayé d'éviter les écueils des chants les plus connus, quoi. Bon, il y en a quelques-unes qu'on peut pas ne pas faire, quoi. Comme à Las Barricadas, c'est l'exemple justement, quoi. Mais la plupart des chants qui ont été déjà très galvaudés, comme El Restito del Ebro ou des choses comme ça, on a essayé de les éviter et de plutôt privilégier des chansons qui étaient moins connues. Puis dans les arrangements, il y a un vrai travail de réactualisation. Quoi.
Mundo obrero. Y viene un chico de la juventud, comunista de Sevilla, Ventura Castillo, recuerdo de nombre. Y si eres tú que vendes el mundo obrero, pues sí. Y dice, pero esto no se vende así, hombre. Así dice, mundo obrero, órgano central del Partido Comunista, terror de la burguesía, mundo obrero.
Donc en 1936, mon grand-père a 18 ans. Il habite en Andalousie, dans un tout petit village perdu. Il est d'une famille de paysans pauvres. Son père est décédé, ils sont dans la misère. Il commence à s'intéresser à la politique en venant El Mundo Obrero, le journal communiste d'Espagne, quoi. Et en 36, donc, il s'engage aux côtés d'anarchistes de la CNT, qui sont les gens les plus organisés au niveau de l'Andalousie, dans la lutte antifranquiste. Il combat pendant 3 ans, donc de 36 à 39, principalement autour de Madrid. Puis en 39, il quitte le pays, il arrive en France, il se fait interner à Argelès, dans les camps de prisonniers, qu'on pourrait même appeler carrément les camps de concentration, on pourrait dire ça aujourd'hui, quoi, avec le recul. Et il s'évade de camp, il rejoint la résistance, il participe donc au maquis, à la résistance française. En 45, à la libération, il fait partie de l'expérience de la Reconquista en Espagne. Donc il retourne en Espagne, mais c'est une débandade, quoi, une débâcle totale, puisqu'il n'y a pas de soutien logistique, ni de la part des gouvernements, des alliés, quoi, ni de la part des... Enfin, il n'y a aucune logistique, aucun accompagnement possible de la Reconquista, donc il revient en France, il s'installe en France, il se marie, il fait des enfants, 7 enfants, dont mon père José, et on en arrive aujourd'hui à moi, à ma naissance, et puis à ce projet-là aujourd'hui. Quoi. Moi j'ai bien connu puisqu'il est décédé en 2002, donc moi je suis né en 76. Hein. Puis comme je te disais, il a toujours, ça a toujours été un personnage vachement important dans la famille, qui réunissait tout le monde, et puis qui savait raconter des histoires, et raconter son histoire, quoi, et qui m'a toujours interpellé.
Donc ça a été bien transmis cette histoire, si je comprends bien.
Ouais, je pense, et puis même aujourd'hui, je ne suis pas le seul à porter cette histoire-là dans la famille, quoi. Enfin, disons que à sa mort, ça a été un peu difficile d'en reparler, de se réapproprier cette histoire-là. Mais justement, le fait que je m'engage dans ce projet a fait que dans la famille aussi, on recommence à revendiquer, à se réimprégner de ça. Et puis, on est quelques-uns à vouloir demander la nationalité aujourd'hui, puisque c'est possible, hein, pour les petits-enfants de réfugiés, les enfants de réfugiés. En fait, j'ai réalisé 2 heures d'enregistrement. Et sur ces 2 heures, il y a aussi bien des histoires, des anecdotes super rigolotes, quoi, des trucs vachement folkloriques, que des histoires très tristes où on le sent vraiment, même avec les années qu'on passait, ne pas avoir digéré, quoi, ce qui s'était passé. Donc, notamment ce qu'il y a sur l'album, autour du front de Jarama, qui a été une bataille sanglante, quoi, auquel il a participé, mais aussi par rapport à l'accueil qu'il a eu en France, où en arrivant en France, alors que c'était un gouvernement du Front Populaire, et où il s'est retrouvé donc. Parqué, enfermé, où il a vu des gens mourir par milliers, quoi, par milliers, de faim, de conditions d'hygiène déplorables, etc. Et mon grand-père n'a jamais voulu demander la nationalité française, justement, à cause du camp d'Argelès et à cause de tout ça. Ouais.
Porque te recuerdas, non, de los esfuerzos que hemos hecho para volver a que una nata ahora en el poder, ¿eh? Hace falta, ¿sabes? ¿Para qué luchar? Y ahora están los mismos, porque el gobierno de Aznar tiene gente de franquistas.
El comunero, ¿cómo tú lo explicas?
El comunero, c'est un peu difficile à traduire. On pourrait traduire par le communard, le coco. En fait, c'est une façon un peu moqueuse, quoi, d'appeler un communiste. C'était le surnom de mon grand-père, hein, puisqu'il était donc andalou et communiste. Il faut savoir qu'en Andalousie à l'époque, c'était la CNT, la Confédération nationale du travail, qui était majoritaire, quoi, et qui était la plus organisée, qui organisait les convois en bateau pour rejoindre le nord de l'Espagne et rejoindre le front de Madrid. Donc il s'est retrouvé embarqué aux côtés de d'Aznar, qui l'ont surnommé le coco, le communard, pour gentiment se moquer de lui. Parce qu'ils étaient rares, les cocos, en Andalousie, et qu'il détonnait un peu dans son régiment, quoi.
Donc lui, il se disait communiste ?
Ouais, lui, il se disait communiste, ouais, jusqu'à la fin de ses jours. Ouais. Ce qui n'est pas mon cas. Non, mais même si, enfin, au-delà de ça, justement, il y a des, enfin, pour faire vite fait, quoi, moi, il y a un truc qui m'énerve vraiment, quoi, par rapport à la guerre d'Espagne. Et tu parles de guerre d'Espagne, il y a des gens qui ne sont pas spécialement intéressés au sujet et qui ont pour toute culture de l'histoire le film de Ken Loach, qui est un très bon film, hein, mais je trouve que c'est dommage de résumer la guerre d'Espagne et de dire que les Espagnols ont perdu, enfin, les Républicains ont perdu la guerre à cause de Moscou, Staline et le Poum, etc. Enfin, moi, l'histoire de mon grand-père. C'est justement un peu l'antithèse de ça, quoi. Je veux dire, pour les militants, pas pour les gens d'appareil, pas pour les gens en responsabilité, mais je pense que pour les militants, la valeur de base, c'était l'antifascisme. C'était pas l'appartenance au PC, à la CNT, c'était pas ça, quoi. Donc c'était un peu ça aussi, l'idée de vouloir mettre en avant ce titre-là, ce nom-là, cette histoire-là.
Voilà, on a donc entendu deux extraits des interviews que Thomas Jiménez a
a réalisé avec son grand-père. Donc c'est des extraits, des petites phrases comme ça qu'on entend, qui ponctuent le disque. Alors la première, il raconte qu'il vendait le monde ouvrier, Mundo Obrero, et qu'il y a un gars de la jeunesse communiste d'Andalousie qui arrive et qui lui dit « Toi, tu veux vendre le Mundo Obrero ?» Et il lui dit bien « Oui, mais ça ne doit pas se vendre comme ça. » Il crie « Mundo Obrero, organe central du Parti communiste, terreur de la bourgeoisie, Mundo Obrero !» Alors, et donc le grand-père dit « Alors, j'ai mémorisé cette phrase. » Et puis l'autre extrait, il dit « Quand tu penses à tous les efforts qu'on a fait pour revenir à un Aznar au pouvoir, donc il n'a pas connu Zapatero, ça fait mal, tu sais, pour lutter si aujourd'hui c'est toujours les mêmes, parce que dans le gouvernement d'Aznar, il y a des franquistes, tu sais. » Donc là, il a totalement raison. Donc à quoi ça a servi, c'est un peu tout le nœud du problème. Et là, on va entendre tout de suite un autre extrait de ce disque avec une chanson qui s'appelle Que la tortilla se vuelva, c'est-à-dire littéralement que l'omelette se retourne. C'est évidemment une image pour parler de la révolution et que enfin les choses changent radicalement. Le refrain, c'est que l'omelette se retourne, que les pauvres mangent du pain et que les riches mangent de la merde.
Yo me aprendí de carretilla esto, ¿sabes? Y claro, ya me mandó de quitar los periódicos.
J'aimerais revenir sur la question de la transmission. Comment toi tu vois, comment tu définirais la transmission ?
Mais la transmission, disons que moi pendant un moment j'ai vécu l'histoire de mon grand-père sans vraiment la comprendre, quoi. C'est-à-dire il me racontait des histoires, j'écoutais, mais je n'arrivais pas à y mettre le sens politique que j'y mets aujourd'hui. Donc pendant longtemps ça a juste été une question de sentiment, de ressenti et d'être bien avec quelqu'un. Après par la suite quand je suis devenu adolescent et que je me suis un peu plus intéressé à ce qu'il pouvait me raconter, à ce que signifiait cette histoire, ça a été pour moi un ancrage, quoi, par rapport à des valeurs politiques que je porte encore aujourd'hui. Et pour moi la transmission de la mémoire, voilà, c'est le fait que je puisse aujourd'hui porter les valeurs que mon grand-père, enfin essayer de porter les valeurs que mon grand-père a défendues en 36, quoi. C'est surtout ça.
Toute sa vie,
Et toute sa vie, effectivement. Ouais.
On a parlé de transmission de valeurs, mais il y a le côté linguistique aussi. Enfin, est-ce qu'on parle espagnol chez toi ?
Ouais, ça a été. C'est délicat ça, parce que quand mon grand-père est arrivé en France, et quand mon père est né surtout, ma grand-mère aussi était d'origine espagnole. Ses parents étaient de Grenade et elle est née en France, mais ses parents étaient espagnols, donc elle parle espagnol, mon grand-père parle espagnol. Et mon père, qui était le premier enfant, a très mal vécu tout ça. Il a été. Moi, je te parlais tout à l'heure de mon expérience à l'école, lui, c'était 100 fois pire, quoi. Donc, ne parlant qu'espagnol et tout, il a très mal vécu la scolarité. Il a été pendant un moment même relégué dans le coin des gitans et de ceux qui, de toute façon, il n'y avait rien à en tirer. Et il a eu, lui, de son côté, et puis mon grand-père aussi pour lui, quoi, a eu envie de un peu plus rentrer dans l'intégration et donc apprendre le français. Et c'est vrai que pendant très longtemps, moi, à la maison, mon père ne me parlait pas espagnol du tout, quoi. Même aujourd'hui, il ne me parle pas espagnol. Et il y avait qu'à mon grand-père que j'avais ce rapport-là, autour de la langue, autour de... Et je parle mal espagnol. Enfin, je sais, je travaille, mais je pense que, enfin, j'aimerais, je comprends très très bien, je le parle plutôt pas mal, mais j'aimerais le parler mieux que ça. Ouais.
C'est pas seulement un savoir familial qui a été transmis, c'est aussi tout un tas de
valeurs,
et une histoire d'engagement aussi.
Non, mais au-delà de ça, en plus, je pense que ce qui est très important, c'est qu'en Espagne aujourd'hui, cette histoire-là, enfin, la Balle de los Caídos, tu connais en Espagne, la Balle de los Caídos, c'est un monument. Désolé pour la répétition, c'est un truc monumental, quoi. C'est une hérésie de l'histoire, ça a été construit par des prisonniers politiques républicains espagnols, et c'est une grande vallée avec des monuments à la gloire des fascistes, à la gloire des phalangistes, à la gloire des... Et ce monument, il est encore debout aujourd'hui. Il y a encore des monuments à la gloire de Franco, il y a encore des monuments à la gloire des martyrs religieux, on dit. Et il n'y a rien pour les républicains espagnols aussi, il y a des fosses communes. Il y a des fosses communes qu'on découvre petit à petit, alors que les vrais héros de l'histoire, il n'y a pas tergiversé 10 000 ans là-dessus, même si on est un républicain de droite aujourd'hui, quoi. C'est clair que ces mecs-là avaient un combat juste et complètement... qu'il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, ils n'aient pas leur reconnaissance dans l'histoire, quoi, et qu'on n'ait pas encore fait le ménage dans l'histoire de l'Espagne, quoi. Et même au niveau de la France, je veux dire, mon grand-père, quand il me raconte un peu la résistance et la Seconde Guerre mondiale, moi, dans ce qu'il m'en a rapporté, j'ai l'impression que c'est justement les 3 ans d'expérience des républicains espagnols qui, après, ont immigré en France, qui a permis d'organiser beaucoup plus facilement et rapidement la résistance, quoi, en France. Et c'est méconnu, même s'il y a 2-3 lignes dans les bouquins d'histoire. Mon grand-père est allé à la libération de Paris avec Leclerc, et il y avait beaucoup d'étrangers, et on ne le sait pas, quoi. Voilà, donc il y a à faire le ménage dans l'histoire officielle. Quoi.
Alors, du coup, il y a une histoire. Enfin, l'histoire n'est pas terminée, enfin, n'est pas faite complètement, ni en Espagne, ni ici, en fait.
Ouais, je trouve complètement. Et surtout en Espagne. Je pense qu'autant il nous a fallu, même en France, quand tu vois la période de la collaboration et le temps qu'il a fallu pour arriver à en parler, et des sujets comme l'Algérie, dont on n'a toujours pas réussi à parler sereinement, quoi. En France, t'imagines bien qu'en Espagne, où où Franco, qui est passé en 39, a eu tout le temps de réécrire l'histoire, jusqu'à, puisqu'il est mort, il est mort en 74, il a eu tout le temps de réécrire et de bourrer le crâne et de refaire l'histoire. C'est les vainqueurs qui font l'histoire à chaque fois, donc justement, là maintenant, on a à refaire des républicains des vainqueurs, quoi.
C'est une histoire qui est ancrée quand même dans cette région ou pas ?
Et pendant longtemps, on disait que Toulouse était la première ville espagnole de France. Enfin, c'est pas pour rien. Effectivement, le gouvernement provisoire espagnol, quand il a quitté l'Espagne, était basé à Montauban et aussi à Toulouse, donc dans la région. La région, elle est très fortement imprégnée de cette histoire-là. Ouais. Et la ville, Toulouse aussi, on sent encore des restes de cette époque-là. Ouais.
Vous sentez un écho particulier justement quand vous jouez dans le coin ?
Ouais, ben là mercredi dernier on jouait à Toulouse, donc juste à côté de la Casa d'Espagne. Et donc on s'est retrouvé avec tout le public de la Casa d'Espagne, des vieux de 80 ans, quoi, qui dansaient le point levé, qui chantaient avec nous. C'était magnifique, quoi. C'est des moments. Et puis ils viennent te raconter des histoires après, t'expliquer leur père, leur grand-père, leur famille, quoi. Et c'est des moments vachement touchants à chaque fois. Ouais. Donc ouais, je pense qu'il y a encore une résonance particulière ici, mais comme il doit y avoir, je pense aussi à Paris, je pense qu'à Paris, il y a aussi une forte communauté espagnole.
Yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba, por ver si Franco llegaba. Solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. las altas de Burgos, andámosla sublevado, andámosla sublevado. Ya veremos cómo corre cuando llegue el tren blindado, cuando llegue el tren blindado. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y mola, se va a paseo, y mola, se va a paseo. En el tren blindado, camino de Andalucía, camino de Andalucía. Y vi que Queipo de Llano, al verlo retrocedía, al verlo retrocedía. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y Queipo se va a paseo, y Queipo se va a paseo.
Voilà, donc là, c'était un dernier extrait du disque El Comunero, donc chant de lutte de la République espagnole en hommage donc au grand-père de Tomás Jiménez. Cette chanson-là qu'on vient d'entendre, El Tren Blindado, le train blindé, il est question d'un train blindé, donc comme ceux de la Révolution russe, qui fait reculer les trois plus sanglants généraux fascistes, donc Franco, Mola et Queipo de Llano. Il faut savoir que ce genre de chansons, des chansons populaires, étaient sans cesse réadaptées, réactualisées, et ce fut donc particulièrement le cas pendant la guerre, où les plus populaires furent systématiquement revisitées, c'est-à-dire réécrites à des fins politiques, et donc il existe souvent un texte anarchiste et un texte communiste. Donc on a plusieurs versions en fonction des obédiences. Donc voilà, cette interview avec Tomás Jiménez est donc terminée. Il faut savoir, donc le disque El Comunero est produit par le Tacti Collectif et distribué par Mosaïque, donc on le trouve partout où il y a des disquaires. Et puis le groupe El Comunero sera en concert à Paris le 3 juin aux Zèbres de Belleville, 63 boulevard de Belleville dans le 11e. Donc allez-y si vous voulez découvrir un peu plus le projet. Sur scène, c'est très très bien. Et voilà, donc pour plus d'infos, le téléphone du Zèbre de Belleville, 01 43 55 55 55, 55 trois fois. Voilà, et on va tout de suite donc poursuivre notre dossier avec cette fois-ci des extraits d'un débat qui s'est tenu au festival Origine Contrôlée à Toulouse. C'était le 10 novembre 2008, donc une rencontre intitulée donc Mémoire de la guerre d'Espagne, une soirée donc qui tournait autour de la projection du film Espejo Rojo de Jean Ortiz. Espejo Rojo, c'est-à-dire rouge miroir, c'est l'histoire de Virgilio Peña, qui est un modeste ouvrier agricole né en 1914 à Espejo, donc un village d'Andalousie, et qui est un combattant, qui était un combattant acharné contre les dictatures, à commencer par celle du franquisme, puisque jeune, il adhère à la jeunesse communiste et participe à toute l'épopée républicaine de la défense de son village à la retirada, des camps du Roussillon au Maquis, de Buchenwald à sa libération en juin 1945. Donc un film vraiment très intéressant, donc qui entamait cette soirée, qui se poursuivait donc avec une discussion et qui s'est terminée avec un concert d'El Comunero justement. Et donc on va tout de suite en fait entendre l'intervention de Progreso Marín. Il va se présenter, il est poète et écrivain, né à Toulouse, de parents exilés espagnols.
Bien. Progreso Marín, enfin on me voyait bien avec mon prénom, mais je connais une bonne partie de la salle. Effectivement, qu'avec ce prénom, moi je me suis toujours demandé, quand je suis né à la fin de la guerre, quel optimisme animait mes parents pour me foutre un nom comme ça, Progresso, Ideal, Fraternitat. J'ai dit, et les nazis venaient juste de quitter Toulouse et ils n'étaient pas encore vaincus. Bon, que vous dire de plus sur l'Espagne ? À travers mon dernier livre s'appelle La mémoire à vif. Eh bien oui, cette mémoire reste à vif parce que, comme Jean a commencé à vous le dire, parce que en Espagne il y a une justice fondamentale, une injustice terrible. Encore nos vieux sont considérés comme des terroristes. C'est le seul pays du monde, d'Europe bien sûr, mais du monde, où les bourreaux disent aux victimes « Ah ben nous, il y a longtemps qu'on vous a pardonné ». Voilà, c'est ça l'Espagne. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas vu en Serbie, ce qu'on n'a pas vu en Croatie, où on poursuit les criminels de guerre. Et il a bien fait d'insister sur le fait que le juge actuel, le procureur, a beau bloquer le processus de Garçon, un jour ou l'autre, il faudra qu'il cède parce que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et c'est ça, réellement, qui les emmerde d'une façon très forte. Il n'en reste pas moins que cette bataille de réappropriation de la mémoire du camp républicain, je pense, nous finirons par la gagner, mais il ne faut pas croire que ça va être encore facile. Parce que, imaginez, je le dis souvent en tournant dans mes différentes conférences, en voyant des auditoires, imaginez un peu que le pétainisme ait triomphé en France et qu'on ait eu 40 ans de ce régime-là. L'Espagne a connu 40 ans de franquisme, falsification totale de l'histoire. Et donc, il est difficile parce qu'il y a des gens qui se sont compromis, d'autres qui pensent qu'ils n'ont pas été courageux. Et il y a donc une espèce de majorité alimentée par le Parti populaire qui en fait son fonds de commerce, qui ne veut pas que la vérité se fasse. Il ne s'agit pas de se venger. Ça n'aurait aucun sens. Il s'agit de rétablir les faits dans leur vérité. Un point, c'est tout. Il y avait une république, et cette république a été abattue illégalement par un coup d'État militaire. Et ça, c'est le fondement. Alors, effectivement, il faut faire attention, parce que des révisionnismes, il y en a. Je ne sais pas, les bras ou les oreilles, plutôt, ont dû vous en tomber si vous avez entendu ce pauvre Michel El Castillo sur France Inter il y a 15 jours. Moi, j'avais des gens qui pleurent trop sur leur sort, j'avais un peu... Bon, voilà, son premier livre, Tanguy, me plaisait énormément, mais il y avait d'autres livres, je le trouvais suspect. Je me suis dit, mon vieux, t'as eu du nez quand je l'ai entendu parler, renvoyer dos à dos, dire que, voilà, que ces rouges étaient des criminels. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais il faut continuer, parce que le franquisme a failli réussir ce que les dictatures cherchent, c'est-à-dire la cassure de la transmission de la mémoire entre les générations. C'est ça. Hein, c'est ça. Et il y a des gens encore qui ont peur. Cette peur qu'on a du mal, nous, à comprendre, mais cette peur, elle est réelle. Moi, je pense qu'à Ripoll, c'est en Catalogne, c'est pas au fin fond de l'Espagne, c'est à 60 km de la Cerdagne. Mais il y a 2 ans, nous avons voulu lire les lettres de quelqu'un qui avait été tué, assassiné par les franquistes, fusillé en 40-41, je crois, après lui avoir promis qu'il... comme il n'avait pas de sang sur les mains, qu'on ne lui ferait rien, eh bien, la petite fille, alors que avant sa mère avait autorisé la publication des lettres, n'a pas voulu qu'on lise les lettres en public en nous disant « Je ne sais pas quel sera le prochain gouvernement de l'Espagne ». Nous, on est restés abasourdis que quelqu'un aussi jeune. C'est pour vous dire à quel point la peur est viscérale. Tel autre, Jordi Guichet, par exemple, qui est au Mémorial démocratique, sa grand-mère, un jour, le prend en part, lui dit « Écoute, sous le franquisme, j'ai été en prison ». Mais ne le dis pas à ta mère. C'est-à-dire que la grand-mère le dit à son petit-fils en privé, pas en public, et lui dit, ne le dis pas à ta mère, c'est-à-dire à sa propre fille. Vous imaginez un peu comment cette peur est vissée dans l'inconscient et dans le conscient de l'Espagne. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et alors ensuite, bien sûr, moi, je pense que l'Espagne, peut-être, d'une part, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, et d'autre part, la monarchie, faut pas oublier que Juan Carlos a prêté serment, le jour où il a prêté serment, c'est sur les lois du mouvement, del movimiento espagnol, c'est-à-dire qui étaient les lois franquistes. Et donc, peut-être que changement de monarchie, où il faudra bien que le prochain monarque se jure sur les lois de la Constitution, et non plus celui du mouvement, les choses pourront se voir d'une autre façon. Donc cette transmission de la mémoire, ce qui se fait ici, les films, les livres, un site comme celui qu'anime Charles Farini, sont des instruments extrêmement importants. Nous sommes ici, et nous le voyons bien dans cette salle, une arrière-base très forte de quelque chose qui continue à divulguer de l'autre côté des Pyrénées pour qu'enfin la mémoire du camp républicain soit rétablie et que nos vieux qui ont été, vous le voyez dans le film quand même, quelle a été la destinée de certains républicains espagnols, partis combattre un soulèvement militaire, ils finissent à Buchenwald comme Virgilio ou à Mauthausen comme 8000 autres. Le premier convoi de l'Europe occidentale civile qui est parti dans les camps de la mort est parti d'Angoulême le 20 août 1940, 2 ans avant les Juifs. Vous voyez comment cet État perpétue les choses. Et moi, dans les innombrables rencontres que j'ai fait, les interviews, je me dis qu'il y a eu une odyssée extraordinaire, une volonté, la participation à la résistance française qui a été cachée à la fin de la Seconde Guerre mondiale sous le prétexte qu'il fallait que la France éternelle ait résisté. Bon, bien sûr qu'il y a des Français qui ont résisté, mais les Espagnols, les républicains espagnols ont résisté et très tôt, hein, parce qu'ils avaient l'habitude de ces combats. Et il a fallu attendre 2004 pour qu'enfin on mette une plaque au bord de la Seine en disant que la Nueve du général Leclerc, la 9e compagnie, est entrée la première dans Paris, est arrivée à l'hôtel de ville. Moi, je vous assure, là, récemment, j'ai rencontré un des derniers survivants. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ces monuments d'histoire, ces destins comme celui qui est dans le film, tout cela doit être exalté alors que cela a été tué. Les livres d'histoire en Espagne, c'était El Caudillo, Franco a sauvé l'Espagne du chaos et point barre. Et il fallait, voilà. Et tout ça a influencé ce peuple espagnol qui est en train de retrouver sa force. Voilà ce qui me semble extrêmement important. Cette énergie.
Nous sommes une armée de rêveurs et pour cette raison, nous sommes invincibles. Comment ne pas vaincre avec cette imagination qui emporte tout ? Nous ne pouvons pas perdre. Ou plutôt, nous ne méritons pas de perdre.
Voilà, toujours dans les oreilles loin du front, 106.3 sur Fréquence Paris Pluriel. Donc on continue avec ces extraits d'un débat qui s'est tenu au Festival Origine Contrôlée à Toulouse le 10 novembre dernier. Et là, on va entendre l'intervention d'une personne dans le public et puis Progresso Marine qui rebondit là-dessus. Également Jean Ortiz qui est réalisateur, historien à l'Université de Pau, qui est poète. C'est le réalisateur du film Espejo Rojo. Et puis, également, on entendra Charles Farini, qui est, lui, représentant de l'Association des descendants des exilés, fondateur du site Internet Espagne au cœur.
Alors, nous sommes beaucoup ici à être témoignage direct. Je suis moi-même petite-fille de disparus de guerre, toujours disparue. Mon grand-père, il n'est pas encore inscrit dans la liste des Juez Garzón. 140 000, mon grand-père, il n'est pas. J'en connais beaucoup qui ne sont pas encore. Parlons de la peur. Ma grand-mère est là 101 ans, 101 ans. Une mémoire qu'elle fait résistance. Elle me disait l'autre jour, on l'a interviewée dans ses 100 ans, parmi d'autres jours aussi, et je lui disais, est-ce que tu voudrais retrouver ton mari, avoir une tombe. Elle m'a dit, j'ai tellement passé d'années à m'habituer à ça, que maintenant, bon, personne ne va me le redonner, et je n'ai pas pris l'habitude des cimetières. Mais après, elle me dit, et là, je parle du contexte de classe sociale, elle me dit, et puis vous êtes tellement bien maintenant, tous, vous tous, ces enfants, ces petits-enfants et ces arrière-petits-enfants. Ça veut dire que la peur de classe, elle est toujours là. On a la peur peut-être de la mort, mais c'est peut-être pas ça qui fait si peur, puisque les gens, ils luttent, ils donnent leur vie. Et les militants, ils donnent leur vie, toujours. Mais la conscience de classe, elle est très bien mise à l'évidence dans le film de Juan Ortiz, où je le félicite aussi parce que c'est tellement grave, cette histoire de la guerre d'Espagne qui se lie à la Deuxième Guerre mondiale, que c'est la même qu'on a masqué le problème de la guerre d'Espagne en disant que c'est une guerre civile. Ce n'est pas vrai. On dit toujours ça au Congo, au Mali et n'importe où. En Espagne, on l'a dit, ce n'est pas une guerre civile. On ne s'est pas tué entre nous. On a fait qu'on se tue. Et on masque encore aujourd'hui en disant qu'on a peur de désenterrer parce qu'on a peur que les vieux démons de la vengeance viennent. En Espejoroto, on voit très bien qu'il n'y a pas de vengeance. Il n'y en a jamais eu. Il y a toujours eu une raison de révolte à des humains qui se sont traités comme des merdes. Et il le dit très bien quand il s'est fait servir le café par ses patrons. C'était le rêve d'un peuple qu'il n'était jamais respecté, qu'il était mal payé, qu'il n'était pas considéré même pas comme ouvrier, qui a provoqué ses révoltes, tout simplement ses revendications d'un pays, dans une république qui rétablissait la justice et le droit. Après cette république, ce n'est pas les républicains qui ont fait la guerre. Non. On les a donné un coup d'État, on les a volés, arrebatados, una república. Et ça, on le voit très bien dans le film. Alors, l'avantage de ce film, c'est qu'on se fixe sur une personne en particulier, parce qu'il y a tellement des millions, des millions, des millions de personnes exterminées, éliminées, indignifiées dans cette histoire moderne qu'on appelle, que par où on commence ? On commence par une personne, d'accord, un témoignage direct. Et c'est ça qu'on a voulu interdire en Espagne à la mort de Franco. C'est ça qu'on continue à vouloir interdire maintenant. Alors, les déclarations de la reine et compagnie, c'est vrai, les masques tombent, mais on sait que c'est des gens conservateurs et qui sont là pour maintenir ce type de système qui continue à ne pas respecter la justice sociale et les libertés. Mais moi, ce qui m'a fait encore plus peur, c'est que ce n'est pas si anodin qu'on publie ces déclarations. Je pense que ces déclarations, ils veulent entretenir la peur pour que ma grand-mère me dise encore « Restez tranquille, je n'ai plus besoin et vous vivez très bien. » Parce que justement, l'opposition qui a fait le PP, le Parti Populaire Espagnol, pendant ces années où Zapatero avait un gouvernement très de gauche et une grosse volonté de rendre mémoire et faire un pays un peu plus juste, il faut voir l'opposition qui sont faites en créant la peur encore chez les gens. Je suis sûre que si le PP il aurait eu une opposition un peu plus décente, la loi de la mémoire elle aurait été bonne. Alors, ne croyons pas toujours ces déclarations, parce que je pense qu'il y a un deuxième degré de lecture. Alors, quoi dire ? Mon grand-père il est toujours là, disparu, en la retirada. Pour Camprodon, je suppose. C'est une histoire très grave que je ne vais pas raconter là, que je l'ai découvert à l'âge de 15 ans, avec ma grand-mère qui avait 75 ans à l'époque. Je peux vous dire qu'on n'a été que deux personnes, deux femmes de la famille à trouver cette histoire. Ma grand-mère et moi, adolescente, que j'ai connue, et mon pays, et la capitale que je n'avais jamais connue, et l'histoire de mon pays où on m'a l'expliqué avec code. parce que le médecin qui témoignait à ma grand-mère en recherchant sur la possible disparition, sur la possible mort de mon grand-père, il parlait codifié à ma grand-mère devant moi, parce qu'il disait, vous connaissez bien les règles de guerre de Franco à chaque fois. Je disais, tiens, je ne savais pas qu'il y avait des règles de guerre. Mais après, j'ai dû les lire dans les livres d'histoire pour savoir qu'est-ce que c'était ces règles. Donc, Franco, il ne prenait pas les médailles des tombés. Alors, on ne sait pas qui mourrait du côté républicain. Alors, bien sûr qu'on a tué du côté républicain pendant la guerre, c'est sûr. Et, non, mais je veux dire, quand on fait une guerre, on tue. Et dans les premiers mois, il y a eu quelques désordres qu'on s'est connus, reconnus, et ça a été toujours expliqué, diabolisé. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'aille pas ni des tombes, ni des mémoires directes des morts tombés. Et que quelque part, voilà, la règle de guerre, c'est qu'en Espagne, on ne l'a pas respectée. Autre règle de guerre, c'est que mon grand-père, il est terminé dans une ambulance en la retirada, qu'ils ont été bombardés. On ne bombarde pas les ambulances, non plus les hôpitaux, qu'il a été bombardé, qu'il était paralysé, il ne pouvait pas marcher, et qu'il a resté dans l'ambulance. Et le médecin a terminé à dire, madame, vous connaissez les pratiques de la cavalerie de Franco. On s'imagine tout ce qu'on veut de la mort de cet homme. On s'imagine tout ce qu'on veut. Mais que quelque part, la peur, je la refuse. Et ces déclarations de la merveilleuse reine, je la refuse. Je ne vais même pas l'entendre parce que j'en ai marre qu'on me fasse peur. Je ne veux pas avoir peur. Et la mémoire sortira en première personne, comme chez Ortiz, comme chez Virgilio, comme chez moi, comme chez mon mari, qui était l'enfant, qui est l'enfant du compagnon de guerre de mon grand-père, qu'on croyait qu'il était le témoin de la mort de mon grand-père. Ça n'a pas été comme ça, mais nous, on s'est connus. Et on est là. Et ça veut dire que le témoignage, il est inévitable, parce que ça existait. C'est triste, oui, mais ce n'est pas si triste. C'est la réalité. Il est là. Et encore, cet été, un grand personnage d'Espagne, qui se dit de gauche, très de gauche, il me disait, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'on sème l'Espagne de croix? Je dis, mais ils sont sémés de croix enterrés. Mais moi, je voudrais planter une colombe de la paix sur la tombe de mon grand-père ou la symbolique de la tombe de mon grand-père. Je vous remercie.
Je voudrais te dire deux mots, Philippe, parce que cette histoire que tu racontes avec émotion est l'histoire de centaines de milliers de gens, voilà, et que tu le dis très justement. Tu as dit aussi très justement qu'il ne s'agissait pas d'une guerre civile, c'est une guerre de classe, c'est évident. C'est pour ça que les Anglais... Oh, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est pour ça que les Anglais ont été du côté de Franco très tôt, parce qu'ils ont compris, ils avaient le capital en Angleterre. Ça, c'était important. Mais que la reine... lâche son masque, baisse son masque. Ça, c'est terrible, mais c'est intéressant aussi. Parce que moi, je me souviens de la venue de Juan Carlos à Toulouse. On a eu beaucoup de mal à la dépêche pour faire passer un communiqué. Parce que moi, il y a un truc qui m'est resté, et je suis content qu'il y ait du monde ce soir pour le dire, en travers de la gorge. Quand il est venu à Toulouse, en fait, pour rencontrer les cadres d'Airbus, parce que la République, il s'en fout comme de l'an 40, il a dit, et moi j'ai gardé la coupure de presse, et vous pouvez le regarder, c'était la dépêche du dimanche. Et le journaliste l'a mis en rouge, texto, de Franco, j'ai appris à observer et à me taire. Écoute, franchement, qui vient de dire ça à Toulouse, et vous pouvez le vérifier, je ne mente rien, c'est les mots exacts, et pour faire passer un communiqué, qui disent ça en privé, bon, il l'avait en quelque sorte élevé. Mais qui vient ici, c'est comme si quelqu'un disait « Hitler, j'ai appris la stratégie de guerre ». Bon, vous vous rendez compte. Et que donc, ça, tant que ces choses-là seront ainsi, voilà, la reine explique d'une façon terrible le mépris. Quand on sait la douleur qu'il y a de ce peuple espagnol, la douleur que je ne veux pas négative, mais j'ai rencontré 70 personnes, des centaines, comme on raconte Pili, mais il y a des trucs... Vous pleurez la nuit quand vous rentrez de voir ce qu'ils ont été capables de faire au nom du christianisme. Hein. Abattre des gens, les laisser dans les champs. Le frère était caché dans l'arbre et il a vu son frère bouffé par les porcs. Voilà ce qu'ils ont fait. Hein. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc il faudra bien qu'ils payent un jour ou l'autre. Qu'ils payent par la vérité historique, pas pour autre chose.
Juste un petit mot là.
Tant qu'on en est à Toulouse et le roi, moi je suis pas loin, ça fait loin, tu sais, mais ce que j'ai vraiment regretté, c'est qu'il n'y a eu personne, qu'on ne se soit pas démerdé quand même, dans la capitale de la République, en exil, que personne fasse roi, ne se soit levé pour dire Viva la République, ou Espagne, mañana sera républicaine. Je vous assure qu'à Pau, on se serait démerdé pour mettre un espion dans la salle, pour faire entrer quelqu'un, on aurait trouvé des invitations, je vous assure qu'on l'aurait fait. Et ça, ça montre aussi politiquement des choses. Excusez-moi. Et je tenais à le dire ce soir.
Pella, oui, un petit mot là, sur le concept de guerre civile. Effectivement, guerre de classe, bien sûr, mais c'était une guerre contre des soldats allemands, des pilotes d'avions allemands, des Italiens, des Portugais. C'était déjà les prémices de la guerre mondiale. C'est le champ de bataille européen, déjà. Et les ennemis étaient bien identifiés. Je crois que c'est important. Donc, ceux qui insistent en disant guerre civile, effectivement, ils noient le poisson et ils ne présentent pas les choses sur leur véritable visage. Ils camouflent encore un petit peu les faits. Juste un petit mot. En 1936, là, en novembre 1936, Madrid était sur le point de tomber, en 1936, et encerclée par les troupes franquistes. Bon, on sait qu'il n'en fut rien. Il y eut une grande bataille en novembre 1936 qui a été gagnée autour du 7 novembre par les Républicains. Et les Franco rêvaient de rentrer à Madrid. Il n'est pas rentré à Madrid. Il n'a fini par rentrer à Madrid qu'en 1939. Eh bien, Manuel Azaña, qui recevait... Manuel Azaña, qui était alors président de la République espagnole. Je ne sais pas si vous savez, mais Manuel Azaña est enterré à Montauban, ici, à 50 km de Toulouse, au cimetière de Montauban. Il est mort en exil en 1940. Manuel Azaña disait à une délégation française, ici, aux portes de Madrid, nous ne défendons pas seulement Madrid, nous défendons Paris. Et cette phrase s'est révélée tout à fait exacte. Quand Madrid est tombé, en avril 1939, quelques mois après la déclaration de guerre en France, disons, a été proclamée. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà, donc on va finir avec ces extraits de débat, de la discussion autour de la mémoire de la guerre d'Espagne qui avait lieu à Toulouse au Festival Origines Contrôlées le 10 novembre 2008. Et là, on va tout de suite entendre en fait la fin de cette discussion avec l'intervention de Salah Mokran du Tactique Collectif et puis la conclusion de la discussion par les trois intervenants, Jean Ortiz, Progresso Marine et Charles Farini.
Moi, je voudrais juste dire, par rapport à cette discussion-là, pourquoi c'est important pour moi, qui ne suis pas, qui suis un fils de, un héritier de l'immigration algérienne, pourquoi c'est important que cette discussion-là, elle ait lieu et que la mémoire se fasse et que la vérité historique, comme tu l'as dit, Progresso, ait lieu. C'est bien sûr pour l'Espagne et pour les descendants, les héritiers espagnols, héritières d'Espagnols à Toulouse, en France et ailleurs. Mais c'est aussi parce que l'enjeu, c'est effectivement sur différents fronts que ce travail sur la mémoire et sur l'histoire il se fasse. Quand vous parlez, quand j'entends les témoignages, j'ai vraiment l'impression d'être dans le... Et quand vous dites un peu les arguments qu'on vous oppose, j'ai vraiment l'impression d'être dans les arguments qu'on nous oppose. Quand nous, on dit il faut qu'on fasse... qu'on travaille sur l'histoire coloniale, sur la mémoire coloniale et sur ses conséquences. Aujourd'hui, ce n'est pas de la mémoire seulement pour la mémoire. Et c'est vrai que moi, je me sens concerné par la discussion de ce soir. Tout à l'heure, vous parliez de la venue du roi Juan Carlos quand il est venu là, à Toulouse. Moi, j'étais encore au conseil municipal, donc j'ai été invité. Et j'y suis pas allé. Et j'allais parler, je dirais pas qui, mais j'allais parler avec quelqu'un qui était d'origine espagnole. Et il a... semblait me dire, mais de quoi tu te mêles, en gros. Mais moi, je dis que je peux, moi, là, de la place où je suis, dire, je ne vais pas à ce repas. Je ne vais pas, ça me convient pas. Parce que c'est aussi un débat d'idées qu'il y a derrière. Et enfin, je pense qu'il y a du lien entre les choses. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai que... alors, tu as fait le lien avec l'Amérique latine. Mais on sait bien qui a... enseigner les méthodes de torture aux généraux sud-américains et que la guerre d'Algérie a été une bonne école pour la torture ensuite au Chili ou en Argentine. Donc les choses, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. Et c'est pour ça que je tiens à dire aujourd'hui que il y a bien sûr le travail, voilà tout ce que vous avez dit, mais pour moi ça s'inscrit quand même dans un combat commun. Et dans un travail commun, ici et ailleurs, des deux côtés, des deux côtés des Pyrénées, des deux côtés de la Méditerranée, et que ce travail commun, il est nécessaire pour aujourd'hui, pas pour hier.
Bon, à un mot, je crois que moi je suis particulièrement heureux de ce que vient de dire Salah Mokran, parce qu'effectivement, tous ces combats sont des combats communs contre une domination, contre un monde qu'il fallait changer. C'est pas pour rien qu'on a très longtemps occulté à la guerre d'Espagne la partie révolution. Parce qu'il y a eu révolution. Voilà. Et que si les Anglais étaient contre, c'était bien parce qu'il y a eu transformation, et par idéologie, notamment de la part de la CNT, qui avait une vision autogestionnaire, une partie aussi de l'aile de l'UGT, et aussi par nécessité, parce que les patrons ont foutu le camp dès le coup d'État militaire. Et donc, le fond, comme le disait Pili tout à l'heure, c'est véritablement la transformation sociale qui se pose aujourd'hui. Et il est bien que nos mémoires, parce qu'on a des gouvernements et on a des élites promptes à nous opposer, que ce lieu, et j'en suis vraiment heureux, soit le lieu où on retrouve tous ces creusets de résistance. Voilà.
Bien. Deux phrases. Soyez réaliste, demandez l'impossible, c'est pas de moi. Et ensuite, le même homme disait, soyez capable de ressentir sur votre propre joue toute gifle ou toute atteinte portée à la dignité d'un homme partout dans le monde. Il s'appelait Che Guevara. Je crois qu'il a de l'avenir.
Donc, moi, je ne reprendrai pas tout ce que mes camarades ont dit. Là, simplement, je voudrais préciser une chose qui mérite d'être dite. C'est qu'en 2006, effectivement, le roi d'Espagne est venu à Toulouse. Mais quelques jours après, une dizaine de jours après, donc, une importante célébration de la République espagnole, le 75e anniversaire, s'est faite sur la place du Capitole. Il y avait près de 3000 personnes, beaucoup de vieux Espagnols, des guérilleros, des résistants, des antifascistes, qui pleuraient, parce que pour la première fois depuis toujours, les drapeaux tricolores de la République espagnole étaient affichés sur toute la façade de la mairie de Toulouse. Et ça, c'est important. Et on a joué l'hymne de Riego, qui est l'hymne républicain espagnol. Je voudrais le préciser pour que les choses soient claires. Enfin, je voudrais rappeler aussi que quelques jours avant la venue du roi, eh bien, le consul de Toulouse a convoqué, ça c'est une révélation que je fais, a convoqué le secrétaire général de la mairie de Toulouse pour demander l'annulation de la célébration de la commémoration de la République espagnole. Je vous le dis, ça c'est important. Et le maire de l'époque a tenu bon, il a dit non, la célébration aura lieu et nous, bien sûr, nous l'avons célébrée. Voilà, je tenais à le dire pour l'histoire. Il faut que l'histoire soit écrite, il ne faut pas travestir l'histoire. Ce jour-là, le 23 avril 2006, sur la place du Capitole, ce n'était pas le roi qu'on a célébré, c'était la République espagnole et les républicains.
Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission autour de la mémoire de la guerre d'Espagne. Donc, on a entendu une interview de Tomás Jiménez autour du groupe et du disque El Comunero. El Comunero, qui est un disque produit par le Tactique Collectif et distribué par Mosaïque. El Comunero sera en concert à Paris le 3 juin au Zèbre de Belleville, 63 boulevard de Belleville dans le 11e. Vous pouvez vous renseigner auprès du Zèbre. Et puis on a ensuite entendu des extraits d'un débat qui s'est tenu à Toulouse au festival Origine Contrôlée. C'était le 10 novembre 2008 autour de la mémoire de la guerre d'Espagne avec Jean Ortiz, Progresso Marine et Charles Farini. Pour information, vous pouvez lire dans Le Monde Diplomatique de février 2009 un article de Jean Ortiz, justement, intitulé « Bataille pour la mémoire républicaine ». Et puis, voilà, et ce soir, autour des boutons des micros, on était une émission 100% meuf, puisque donc on avait Juliette et Aude. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. On est rediffusé vendredi de 8h30 à 10h. Et on vous laisse dans les bras des Claude du Capricorne.